6h45, 46 exactement, vous écoutez France Culture, voilà, c'est le vrai luxe. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, merci pour ce luxe.
Au sommaire des enjeux, le Burundi.
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Oui, le Burundi, ce sera demain. Aujourd'hui, on parle de l'Indonésie après ces 4 attentats en 2 jours commis par l'État islamique sur l'île de Java. C'était le week-end dernier. On craint déjà une hausse de l'insécurité dans le plus grand pays musulman du monde qui aspire toujours à un rôle régional majeur. Bonjour Delphine Alès.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone avec nous. Professeur en sciences politiques à Paris-Est, Créteil, chercheuse à l'IRASEC, au téléphone depuis Singapour, où se tient dans quelques jours ce Shangri-La Dialogue, ce forum sur la sécurité en Asie du Sud-Est. Justement, le terrorisme, c'était la grande inquiétude de l'année dernière au même moment. À l'époque, la tension était focalisée par la bataille de Marawi aux Philippines. Cette fois, donc, c'est une nouvelle démonstration de force de l'État islamique en Asie du Sud-Est, dans l'archipel, en Indonésie. Et cette insécurité pose une question d'abord intérieure, de gouvernance pour le président indonésien Joko Widodo, qu'on avait appelé l'Obama d'Indonésie. Mais il met aussi en question peut-être le développement d'un pays de 266 millions d'habitants, qui est un peu ce verrou de l'archipel du sud-est asiatique. Et dont le président avait promis, après son élection, vouloir faire un pivot maritime global, comme il disait. Dans ce contexte, l'Indonésie est surveillée de près et courtisée par les États-Unis et la Chine notamment. Alors il y aura de nouvelles élections présidentielles et législatives l'année prochaine. En attendant, Joko Widodo peut-il empêcher l'Indonésie tiraillée de partir à la dérive? Ces attentats d'abord, quelle lecture vous en faites? Il y avait quand même eu une accalmie ces dernières années, non?
Oui, effectivement, ce que marquent ces attentats, c'est la confirmation de la reprise de la violence terroriste en Indonésie, qui avait recommencé après une trêve depuis 2008. Il y a eu une série d'attentats en 2016, puis en 2017, et là, ça confirme effectivement la dangerosité de groupes, soit inspirés par l'État islamique, soit, comme ça a été le cas à Surabaya, rentrés de Syrie. Maintenant, la menace terroriste est très présente en Indonésie. Effectivement, il se passe pas un mois sans que des attentats soient déjoués, sans que des cellules soient démantelées ou des personnes arrêtées, voire tuées dans le contexte d'opérations antiterroristes. Néanmoins, il faut regarder les chiffres. Le nombre d'Indonésiens partis et le nombre d'ailleurs de citoyens sud-est asiatiques comptés dans les rangs de l'État islamique, dans le contexte de ce qu'on appelait la Katiba Nusantara, l'unité de l'archipel, c'est environ 1000 combattants. C'est moins que le nombre de Français partis sur le front syro-irakien. Donc dans le contexte d'un pays comme l'Indonésie qui compte 260 millions d'habitants, dont 88% de musulmans, ça reste des proportions relativement limitées. Très contenues à des groupes qui ne sont pas tous identifiés par le gouvernement. L'un des problèmes d'ailleurs qui est en cours de discussion depuis plusieurs années est celui de la législation antiterroriste qui est mal adaptée, notamment en ce qui concerne la prévention, puisqu'il n'y avait pas, enfin il n'y a toujours pas d'ailleurs de moyens d'empêcher des combattants de partir en Syrie. Il n'y a pas de moyen de condamner en Indonésie des citoyens indonésiens qui auraient commis des crimes avérés à l'étranger. Et donc, c'est tout l'objet de ces discussions sur la réforme de la législation antiterroriste qui se prolonge depuis plus de 2 ans, qui suscite beaucoup de tensions au sein même de la coalition de l'actuel président, entre des groupes qui seraient favorables à une législation très extensive qui permettrait notamment d'emprisonner sans procès des personnes jusqu'à 6 mois, tandis que d'autres, et notamment les groupes pro-droits humains au sein de la société civile, s'opposent à ce durcissement de la législation.
Oui, parce que par ailleurs, il y a quand même une expérience renforcée justement depuis un appui donné à l'Indonésie par l'Australie et les États-Unis depuis les attentats de 2002 avec des unités spécialisées. Encore une fois, comment Abu Sayyaf d'un côté aux Philippines, ici le Jamaat Ansarut Daulah en Indonésie, comment est-ce qu'on peut expliquer cette permanence, même si elle n'est pas massive, de ces groupes radicaux? Est-ce que c'est ce défaut de législation, ce défaut de gouvernance, on va dire, ou un mécontentement plus local, disons?
Alors, le risque terroriste en Indonésie et plus largement dans la région, il se nourrit de conflits en cours, comme c'est le cas à Mindanao ou aux Philippines. Il se nourrit de conflits mal éteints, comme c'est le cas à Poso en Indonésie, qui restent des zones à la fois de frustration, de contestation de l'autorité étatique et mal maîtrisées. Mais là encore, on n'est plus dans la même configuration qu'au moment des attentats de Bali et de Jakarta au début des années 2000. D'ailleurs, l'ampleur des attaques récentes, qui est sans commune mesure avec les attentats de Bali, qui avaient fait plus de 200 morts, en 2002 montre que le gouvernement indonésien a très largement contenu cette menace terroriste. En 2002, on pouvait dire légitimement que les autorités avaient sous-estimé la menace. Ça n'est plus le cas. Ça reste insuffisant, évidemment, puisqu'il y a toujours des attaques. Mais on est, encore une fois, plus du tout dans la même configuration.
Oui, à l'époque des attentats commis par Jamaat Islamiya liés à Al-Qaïda et non pas qui avaient prêté allégeance à l'État islamique comme aujourd'hui. Alors, justement, quand même, cette situation est peut-être par extension, la situation sécuritaire régionale a entraîné une coopération depuis l'année dernière entre Indonésie, Malaisie, Philippines, dans cette mer de Sulu, au sud des Philippines, non loin de l'Indonésie. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une préoccupation nouvelle pour la sécurité régionale, et notamment maritime en ce moment ?
Oui, effectivement, ça a contribué à concrétiser une coopération sécuritaire qui était discutée depuis des années dans la région, mais sans vraiment donner lieu à des mesures concrètes. Et donc les patrouilles tripartites qui ont été mises en place, patrouilles maritimes dans un premier temps, aériennes par la suite, ont effectivement matérialisé cette coopération. C'est aussi une manière, d'ailleurs, pour les États qui participent à cette coopération, Indonésie, Philippines et Malaisie, de montrer qu'ils prennent en main la sécurité maritime dans la région pour ne pas laisser cette responsabilité aux puissances extérieures et en particulier à la Chine et aux États-Unis qui sont les principales puissances militaires en mer de Chine méridionale. Mais l'objectif de ces patrouilles maritimes, vous le disiez bien, il y a un objectif primaire qui est de contrôler dans la mesure du possible les risques de piraterie maritime qui sont encore importants dans cette zone et le risque terroriste, en particulier avec l'organisation Abu Sayyaf qui pratique régulièrement des enlèvements en mer de Sulu. Et ça permet pour les États de la région également de montrer qu'il y a vraiment une volonté de sécuriser leurs voies maritimes, leurs voies commerciales maritimes qui sont très importantes pour atteindre leurs objectifs de développement.
Et alors, est-ce que c'est plutôt une réactivation ou certaines limites qui sont posées, limites sécuritaires, voire diplomatiques, à cette stratégie, je le disais, de pivot global lancée par Joko Widodo? Je la résume en deux points. D'un côté, c'était la question de reconstruire la défense maritime indonésienne ou de la construire, et puis surtout de bâtir l'interconnexion économique de l'Indonésie, toujours assez faible.
Oui, effectivement, le pivot maritime global, c'était un des grands axes de la campagne présidentielle de Joko Widodo. Alors, ce qui est assez intéressant avec cette stratégie, ou plutôt ce slogan politique d'ailleurs au moment où il a été formulé, c'est que c'est vraiment typiquement un slogan de campagne avec comme objectif de produire une innovation qui se situe dans la continuité de la tradition de la politique archipélagique indonésienne, mais qui était assez peu concrète au moment où elle a été formulée en tant que slogan de campagne. Elle a été précisée par la suite. L'année dernière, la présidence indonésienne a enfin adopté un décret présidentiel qui vient un petit peu concrétiser, donner une substance à ce pivot maritime global. Et ce qui est assez intéressant, c'est que oui, il y a un volet stratégique avec notamment l'idée de mettre à niveau la marine nationale indonésienne qui est pour le moment, paradoxalement, pour un état archipel très faible, avec très peu de capacité, absolument pas une capacité de projection au-delà des eaux archipélagiques. Mais l'essentiel de la stratégie du pivot maritime global reste tournée vers l'intérieur, vers le développement économique avec, comme vous le disiez, le renforcement de l'interconnectivité de l'archipel, la construction d'infrastructures, l'amélioration des ports, l'amélioration des voies maritimes pour favoriser le transport commercial. Ça reste le principal objectif.
Et de ce point de vue-là, pour poser le problème un peu schématiquement, est-ce que c'est une politique de développement qui peut éviter à terme, dans les années à venir, de se heurter à la politique chinoise en mer de Chine? On a vu que depuis 2016, il y a eu certains tests, on pourrait dire, de la part de la Chine ou de certains chalutiers chinois qui s'aventuraient, et ça c'était inédit pour l'Indonésie, dans les eaux indonésiennes.
Je crois qu'on ne peut pas les voir en opposition. Ce qui est assez intéressant dans les relations entre la Chine et l'Indonésie actuellement, c'est que la politique chinoise de développer, pour reprendre le slogan des autorités chinoises, des routes de la soie maritime, vient d'une certaine manière contribuer à la substance de l'idée de pivot maritime global indonésien. Parce que ce pivot maritime global, comme je le disais, largement concentré sur la construction d'infrastructures, pour le moment, il n'est pas financé. Et autoriser d'une certaine façon la Chine à investir en Indonésie, en particulier dans les ports, permet au gouvernement indonésien de concrétiser une partie des objectifs du pivot maritime global. Ça permet de donner une substance à cette politique. Je crois qu'il y a un deuxième aspect sur le plan un peu plus stratégique, c'est que les investissements chinois en Indonésie, ou en tout cas la visibilité des intentions d'investissement, parce que pour le moment, ils sont très peu concrétisés, permettent aussi à l'Indonésie de faire monter les enchères dans ses négociations internationales, notamment avec les États-Unis. C'est pas pour rien que lorsque le général Mattis est venu récemment à Jakarta, il a aussi insisté sur l'importance de la coopération stratégique avec l'Indonésie. Je crois que la visibilité des intentions d'investissement chinois est très largement utilisé en ce sens par le gouvernement indonésien pour retrouver une place sur la carte des relations stratégiques internationales. Et on constate que depuis que ces intentions sont formulées, il y a peut-être un peu plus d'intérêt de la part des États-Unis ou du Japon pour renforcer leur partenariat économique ou concrétiser des vieux projets qui n'avaient pas vu le jour jusqu'à présent.
Merci beaucoup Delphine Alès depuis Singapour. Merci.